OK, le docteur Arruda nous écoute. Philippe Bonneville, tu nous résumes les avis de la santé publique qui ont été rendus publics aujourd'hui.
14 avis qui ont été rendus publics ce matin à 8h30, 14 avis écrits, et on constate à la lecture de ces dizaines de pages de documents que, parfois, le gouvernement Legault a imposé des mesures, disons, plus strictes que celles que l'équipe d'Horacio Arruda recommandait. C'était le cas notamment cet automne en zone rouge, alors que la santé publique recommandait pas nécessairement la fermeture des restaurants, des cinémas, des gyms, des salles de spectacle. Or, malgré cette recommandation-là, le gouvernement Legault, lui, a décidé de tout fermer ces types d'installations. Mm-hmm. Un peu le même genre de situation pour le temps des fêtes, où la santé publique suggérait d'ouvrir les cinémas, de donner une certaine liberté là aux gens pendant le temps des fêtes, un endroit où on pourrait s'amuser un peu, mais le gouvernement a refusé d'accéder à cette demande-là, de rouvrir les cinémas pour le temps des fêtes. Et au printemps dernier, lors du premier confinement, ça fait déjà quoi, un an là, maintenant, Horacio Arruda et son équipe proposaient de ne pas fermer les centres commerciaux, de ne pas fermer les restos non plus. Or, quelques jours après avoir reçu ces recommandations-là, le gouvernement annonçait la fermeture, oui, des centres commerciaux, des restaurants, mais aussi à ce moment-là, rappelons-nous, des salons de coiffure. Donc, on est allé un petit peu plus loin que ce que l'équipe de M. Arruda recommandait. Donc, ce qu'on peut constater en général, Bernard, c'est que le gouvernement a parfois été un peu plus strict dans les mesures imposées aux Québécois. Mais évidemment, ces avis écrits-là, qui sont dévoilés aujourd'hui, tels que le souhaitaient les partis d'opposition, notamment à Québec, ces avis-là comportaient des recommandations. Le gouvernement Legault n'avait pas l'obligation d'imposer exactement les mesures que proposait l'équipe d'Horacio Arruda. Il faut dire aussi, pour le contexte, là, que la situation, rappelons-nous, le printemps dernier, évoluait très, très, très rapidement, parfois de jour en jour. Donc, il y avait peut-être possiblement un certain décalage là, entre le moment où on recevait les avis du docteur Arruda et le moment où on annonçait des mesures.
Oui,
donc,
oui,
il pouvait y avoir une certaine différence entre ce que l'on proposait et ce que l'on imposait. Voilà.
Philippe Bonneville, journaliste Cogeco, merci.
Ça fait plaisir.
Docteur Horacio Arruda, directeur national de la santé publique, bonjour.
Bonjour.
Docteur Arruda, si on regarde vos avis d'aujourd'hui, un des avis, c'est qu'il y a des régions qui pourraient basculer du rouge au orange après la semaine de relâche. Quand on entend la santé publique fédérale nous dire qu'on pourrait faire face à une troisième vague encore plus violente que les deux premières, est-ce que ça vous amène à reconsidérer cette possibilité que des zones puissent passer à l'orange après la semaine de relâche?
On peut rien exclure, et puis il faut comprendre que quand on fait, puis je pense que votre chroniqueur l'a bien dit tantôt, on fait face à des situations excessivement dynamiques qui évoluent rapidement dans le temps. OK? Et donc, quand même, pour permettre au gouvernement de prendre des décisions face aux recommandations qu'on fait. Puis je tiens à vous dire, là, c'est pas des avis au même titre qu'on fait habituellement quand la chose n'est pas urgente. On documente des choses, on est dans une science qui est beaucoup plus stable que ce qu'on avait actuellement. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on va regarder, là, puis on est très conscient des effets potentiels du variant. On est très conscient qu'il faut surveiller notre épidémiologie, là, mais on doit aussi prendre en considération pas seulement la maladie infectieuse, mais tous les autres déterminants de la santé, pour la santé mentale des jeunes, etc., etc. Fait que moi, je pense qu'actuellement, c'est ce qu'on dit, on projette ce qui pourrait arriver, mais tout ça peut être réévalué. La semaine de relâche, ça va être déterminante. Et puis, je pense qu'on possède une surveillance de ce qui se passe. Mm. On sait qu'on a de la souche de nouveaux variants au Québec. Actuellement, l'épidémio, quand même, s'améliore. Nos hôpitaux vont mieux, etc. Fait qu'on essaie de faire ce jeu d'équilibre-là comme tel, mais on n'est pas insouciant, d'ailleurs. Le Québec, même si plusieurs régions étaient déjà oranges, est resté en rouge toute cette période-ci, puis justement par prudence.
Oui. Le mot équilibre revient souvent dans votre bouche, Dr Arruda, puis j'ai parlé avec le Dr Weiss un peu plus tôt dans l'émission, puis il me parlait également de cette nécessité de sous-peser, oui, la menace des variants, mais il faut pas non plus que la population décroche, parce qu'à un moment donné, si la santé mentale devient trop un enjeu, les gens n'écouteront plus, ne respecteront plus. Alors, il faut trouver tout cet équilibre-là. C'est juste que on l'avait vu venir, le variant, Dr Arruda, on a vu ce qui s'est passé ailleurs, ça monte comme une fusée partout, et quand vous avez recommandé un peu plus tôt cet assouplissement des mesures, vous aviez vu ce qui se passait dans les autres sociétés où il y a eu le variant et vous avez quand même décidé de recommander des assouplissements pour la semaine de relâche. Expliquez-moi.
Mais c'est parce que dans les faits, c'est ça l'équilibre aussi. Il faut que vous compreniez qu'il y a les maladies. Un, on regarde notre épidémio à nous. Là. Et c'est vrai qu'ailleurs, ça l'a monté, ça l'a d'ailleurs redescendu. On est préoccupé par ça. Là, actuellement, les chiffres vont toujours en s'améliorant. Quand on dit qu'on donne des assouplissements pour la semaine de relâche, c'est des assouplissements, c'est pas un relâchement. La chose la plus importante, c'est qu'il faut que les gens respectent les consignes qu'on a mises en place. Il ne faut pas que les gens se mettent à voir se rencontrer plus, augmenter leurs contacts, parce qu'à la fois, il y a le variant qui est un facteur important parce qu'il est plus transmissible, mais comme il y a comment on se comporte. Et si vous voyez les projections de M. Brisson qui ont été faites, là, l'élément, à mon avis, qui est le plus qu'on peut le plus contrôler, c'est pas l'apparition d'un nouveau variant, c'est comment il se transmet, puis ça, c'est par la diminution des contacts et la gestion des cas et des éclosions qui sont actuellement très agressives au Québec pour le moment.
Quelle est votre plus grande crainte dans les prochains jours, prochaines semaines?
Ma plus grande crainte, c'est que les gens relâchent leur comportement préventif. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est que les gens se disent « je suis vraiment tanné, là, puis moi, là, au diable », alors qu'on est si proche de la vaccination pour une bonne proportion de la population, particulièrement pour nos personnes en haut de 70 ans et plus. Quand on va avoir protégé ces gens-là, quand on va avoir protégé déjà comme les travailleurs de la santé, mais on va être en mesure de tolérer plus de circulation sans impact sur notre système de soins et sans impact sur la morbidité et mortalité. Donc, ma plus grande crainte, c'est celle-là, c'est que les gens lâchent avant cette période-ci, puis bien entendu, que le nouveau variant se transmette beaucoup à ce moment-là, puis qu'on en perde un peu plus de contrôle. Mais si on tient la barre serrée, moi, je pense qu'on peut s'en sortir potentiellement, mais on n'est pas à l'abri d'une troisième vague. On n'est même pas à l'abri d'un éventuel reconfinement global. Je ne veux pas être de ceux qui pensent qu'on connaît la vérité, mais je pense que cet équilibre-là doit être maintenu. Sinon, okay. Les gens vont décrocher. Et puis, il y a des impacts négatifs, hein, de démobilisation des personnes âgées là, qui se perdent, les enfants battus à l'intérieur, des non-accès au système de d'école qui est protecteur. Faut pas oublier ça, parce que ça, tout ça, là, on va l'avoir après la pandémie.
Parce que moi, je vais vous dire, Dr Arruda, là, je l'ai dit tout à l'heure aux auditeurs, là, moi, là, m'a dire le discours de Dr Tam un matin, il a une troisième vague plus violente que les deux premières, je me serais passé de ça aujourd'hui. Honnêtement, je la trouve dure. Je trouve ça difficile. Mais puis je m'accroche à l'espoir. Je vais vous dire à quoi je m'accroche. Je m'accroche à l'espoir qu'on va avoir un été à peu près normal. C'est quoi, mettons, les chances sur 100 qu'on ait un été à peu près normal, Dr Arruda?
Oh là, vous me demandez de vous donner des chiffres, mais je vais vous dire c'est quoi le facteur le plus déterminant? Le vaccin. Si on est capable d'avoir du vaccin en quantité suffisante, j'espère qu'effectivement, on va être capable d'avoir un été un peu plus normal. Est-ce qu'il va être complètement normal? C'est qu'on n'aura pas terminé probablement la vaccination dans tous les groupes. On sait que le vaccin va protéger des individus, mais ne va pas nécessairement empêcher la circulation. Mm. Mais je pense que les scénarios comme Dr Tan nous a présentés, on les a, nous aussi, on les a regardés. Là. On peut toujours voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, mais je veux juste que vous sachiez que là, actuellement, on est en contrôle, mais on demeure excessivement prudent si jamais il y avait une accélération.
Qu'est-ce qu'elle dit, la science de la santé publique, sur la résilience de l'être humain? Quand on regarde les crises passées, y a-t-il un moment où il y a un risque que la population dise justement « Oh, yable, on était écœuré, puis se laisse aller ». Y a-t-il un risque? Oui. Ça peut arriver?
Oui,
c'est,
oui.
C'est déjà
oui,
arrivé,
oui,
ça?
Oui.
Ah oui?
Oui, les sciences comportementales. De toute façon aussi, il faut vous comprendre qu'on ne peut pas maintenir des gens confinés ad vitam aeternam. On le sait, là, quand les gens ne sont pas stimulés, quand les gens ne sont pas dans un mode où ils ont l'impression qu'ils ont un certain contrôle sur leur vie, là, il y a des problèmes importants de santé mentale, etc. Puis à un moment donné, les gens, ce qu'ils font, pas tout le monde. Il y a une proportion qui va tomber malade, il y a des effets même sur le cerveau. On est capable de démontrer comment ils ont été enfermés pendant longtemps, avaient des problématiques cérébrales avec. Fait que dans le fond, la vie est faite de stimulation. L'être humain est un être social. Et si on prend pas ça en compte, ben, le monde débarque.
Dernière question, est-ce qu'on est proche de cette limite du tolérable? Est-ce qu'on est proche de cette limite?
Pour certains, oui. Pour certains, on l'a peut-être même déjà dépassé. Pour d'autres, je pense que les gens sont encore capables d'être résilients. Tout ça dépend de la résilience de chacun. Puis c'est sûr que, Horacio Arruda, qui travaille très, très fort, comme tout le monde travaille fort, et pas dans un contexte où sa vie est basculée, où il vient de perdre son emploi complètement, puis où il est isolé tout seul de sa famille. Alors que ces personnes-là, ces personnes plus vulnérables-là, ont déjà une part moins égale dans la société, puis vont rester probablement avec certaines séquelles où on va prendre, puis même ne serait-ce que le recul qu'on fait par rapport au sport chez les jeunes, l'augmentation d'obésité qu'on voyait, il va falloir retravailler très, très fort tous les autres déterminants de la santé au retour après la pandémie.
Docteur Arruda, merci, bonne chance. Lâchez pas.
Non, puis restons courageux, puis gardons espoir.
OK. Oui, on se nourrit de ça. C'est juste que des fois, on trouve que le réservoir d'espoir est pas mal à sec, mais bon, on se parle, puis on en remet. On regarnit le réservoir, puis on repart. Fait que faut pas lâcher. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Après la pause, on change d'univers. On va aller voir comment ça se passe aux États-Unis depuis que M. Trump est parti, les 100 premiers jours de M. Biden. Est-ce que ça va mieux?